France Inter.
Parer la nature, c'est aussi lui rendre hommage, c'est la célébrer. Et à l'inverse, la nature renvoie quelque chose de beaucoup plus fort dans mon travail. L'or n'est plus une couleur, mais un minerai. Le vert devient un gemme sorti de la terre.
Moi, je vois des paysages tout le temps. Je vois des paysages à Paris. Quand je suis bloquée, par exemple, place d'Iéna, je vois ce pauvre Ginko qui est à l'angle là, du musée Guimet, qui est en train de souffrir terriblement. Puis un peu plus loin, au Trocadéro, il y a deux érables pourpres magnifiques. Je vois toujours des paysages, moi.
Quand le plasticien Jean-Michel Autoniel a choisi comme invité Catherine Deneuve, je dois avouer que nous étions prêts à lui demander un autre nom, incrédule à l'idée d'un oui de la comédienne. Nous avions tort. Quelques jours plus tard, coup de fil de son agent, Catherine Deneuve aime l'idée de parler de jardin avec Jean-Michel Autoniel. Elle sera présente. Bonjour Catherine Deneuve.
Bonjour, je suis étonnée de toutes ces précautions sur le fait que j'aurais pu ne pas venir ou ne pas être moi.
Bien sûr que vous...
Enfin bref, on est là pour parler de la nature, c'est plus important.
Oui, vous auriez pu c'est ne pas vrai. Venir parce que d'abord vous n'êtes pas en promotion et c'est un geste très gratuit votre venue.
Mais heureusement, c'est quand même mieux que de faire des choses en promotion. Moi j'aime pas du tout quand les films sortent et qu'on doit parler, ben, c'est pour parler des films. Et finalement vous interrogez 3 secondes sur votre film et 10 minutes sur votre vie. Voilà.
Donc c'est mieux de parler des jardins et de Jean-Michel Autoniel.
De tout sauf d'être en promotion, oui ça c'est vrai.
Je salue la puissance invitante. Bonjour Jean-Michel Autoniel.
Bonjour.
Vous êtes sculpteur, plasticien, vous avez travaillé avec la cire, avec le soufre, et puis à partir de 93, le vert est entré dans votre vie et vous partagez avec Catherine Deneuve la passion des jardins. On pense à vous, Jean-Michel Autoniel, à chaque fois que nous descendons dans le métro au Palais Royal à Paris. Cette œuvre, le kiosque des noctambules, coiffe de perles, de verre, l'entrée de la station devant la Comédie Française, et c'est elle qui vous a lancé dans l'aventure du vert dans un espace public en l'an 2000. Vous bouclez en ce moment une énorme exposition à Avignon, Autoniel Cosmos, les fantômes de l'amour, 250 œuvres dans la ville qui témoignent de la passion amoureuse, et vous exposez aussi à Cannes. Et puis dans ce grand atelier, on va aller à Annecy pour connaître le programme du Festival du film d'animation qui commence dimanche prochain, 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Je suis en train de regarder les réseaux sociaux, je regarde par exemple le Facebook de l'émission, le Grand Atelier. Alors on a Catherine Deneuve et le merveilleux Autoniel, rencontre au sommet, excitant.
Essayons.
Du superlatif.
Catherine Deneuve adore les plantes, ça ne m'étonne pas qu'elle ait accepté.
Non, c'est la nature que j'aime.
Ah oui, vous dites plus nature que plante,
ah
fleur.
Ah oui, plus la nature, parce que je peux aimer des endroits qui sont assez étonnants pour la lumière, les pierres, enfin des roches, et que voilà, c'est aussi important pour moi que le vert, que les végétaux, oui.
Mais la famille d'Orléac, vos parents, vos sœurs, vous viviez à Paris, vous êtes née à Paris, vous êtes une vraie Parisienne.
Ah ben oui, mais je suis née à Paris, je suis une vraie Parisienne, oui, oui.
Et la nature est arrivée quand vous partiez en camping en famille?
Oh mais non.
Moi, je vous vois en camping avec toute la famille.
Drôle, on ne va pas. En famille nombreuse, on ne va pas.
Alors, cette nature...
C'est drôle que vous me dites. Non, mais moi, j'ai découvert la nature parce que mes parents avaient cette petite maison qui était un ancien garage en Seine-et-Marne, un endroit que j'aimais énormément où j'étais enfant, donc qui était donc très près de la Seine, et où ma mère a lutté pour essayer, comme c'était la roche qui était très vite là, qu'elle a lutté comme ça pour faire pour piocher, pour arriver à retrouver de la terre dans cette roche, faire des espaliers comme ça, c'était vraiment... Moi, j'ai vu ça enfant, je crois que c'est ça qui a beaucoup compté pour moi.
Mmh. Oui. Donc, vous n'êtes pas une urbaine particulièrement?
Vous savez, je suis du signe de la balance, donc voilà.
Un petit peu...
50 à la ville,
un petit peu de nature,
50
un petit
dans peu, la nature,
oui,
voilà.
Oui, c'est ça, un petit peu sur les plateaux et les mains dans la terre.
Ah non, mais ça... Oui.
Vous êtes une excellente jardinière?
Alors ça, franchement, oui, je dois avoir un peu la main verte, mais enfin... Vous savez que c'est lent, c'est très particulier. Les goûts des gens sont très très différents. Voilà, il y a des gens qui n'aiment que les jardins à l'anglaise, vous voyez, très 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 élaborées. Et puis, avec le temps, quand on connaît les jardins, on aime les choses différemment. Moi, je pense que quand j'avais commencé à faire mon premier jardin, c'est vrai que j'ai commencé à voir et surtout à aimer des choses que je n'aurais pas aimées avant, comme tous les cèdres, ça c'est sûr, tout ça, c'était, voilà, tout ce qui était ces conifères. Et puis qu'est-ce que je n'aimais pas trop non plus dans... Ah oui, les haies aussi, voilà, à l'époque, c'était pas trop. Mais avec le temps et avec la connaissance, oui, oui, j'aime beaucoup, beaucoup de choses différentes.
Jean-Michel Letoniel, le petit garçon, parce que vous parlez souvent du petit enfant que vous étiez, c'est très important, tout est né là, dans l'artiste qu'on a en face de nous aujourd'hui, c'est l'enfance qui a produit tout ce qu'il est aujourd'hui, tout ce qu'il réalise. La nature arrive quand dans la vie de Jean-Michel Letoniel ?
Très jeune aussi, puisque j'avais une grand-mère qui avait un jardin potager, voilà, et dans lequel aussi on cultivait à l'époque des fleurs, puisque ça, on mettait les fleurs sur la table et on mangeait ce qui venait du potager, et je portais les arrosoirs, donc j'adorais ça.
Ah oui, ça m'arrangerait bien.
Bon, je suis prêt à venir porter vos arrosoirs.
Allez faire un tour chez Catherine Deneuve. Vous êtes à Avignon en ce moment, d'ailleurs il y a votre valise là-bas dans le studio, parce que vous allez repartir tout de suite après l'émission à 18h. Qu'est-ce que vous présentez alors? Est-ce que c'est vraiment la passion amoureuse, le thème de votre création à Avignon cet été?
Avignon, c'est les 25 ans donc, d'Avignon, ville culturelle européenne, et les 30 ans de patrimoine de l'UNESCO. Donc on m'a donné carte blanche sur tous les musées et tous les jardins de ces musées. Donc il y a des choses en extérieur, en intérieur, des choses sur la place du Palais. Il y a le jardin du Palais des Papes que j'ai découvert, qui est avec une très belle fontaine.
Le jardin des dons?
Exactement.
Magnifique.
Juste
au-dessus du Palais des Papes.
Oui.
Vous créez une fontaine dans le jardin?
Alors, pas le jardin des dons, le jardin qui est en dessous.
D'accord.
Et là, je crée une fontaine dans le jardin qui est très inspirée par l'esprit moyenâgeux et qui ressemble un peu à celle à côté de laquelle vous êtes dans Peau d'Âne quand vous chantez.
Ah oui.
Il y a cette fontaine un peu comme ça, cette fontaine merveilleuse, amoureuse, dans lesquelles on va voir le visage de l'aimé. Voilà, donc je raconte une histoire autour d'une fontaine, mais c'est une œuvre parmi les 250. Ouais.
On va continuer de parler avec vous deux, bien sûr, Catherine Deneuve et Jean-Michel Letoniel. Je voudrais qu'on vous écoute chanter, parce que ça aussi, je ne sais pas si c'est une passion, mais vous...
Que je chante là maintenant? Non.
Ah, vous voulez?
Mais non, je crois que vous avez chanté, je crois que vous demandiez ça.
On vous écoute, bon, non, Catherine Deneuve. certains le font d'ailleurs, très facilement, de chanter comme ça, a cappella.
C'est formidable, ça va être très bon pour la tête de chanter d'ailleurs.
Moi j'aime beaucoup ce que vous faites avec Christophe Honoré.
Ah oui, il faut que j'y chante avec lui, oui.
Il fait chanter Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, je trouve ça très touchant.
Oui, oui.
C'est ça que j'aimerais entendre, vous êtes d'accord? Une fille légère du film Les Bien-Aimés?
Ben oui, d'accord.
J'ai voulu plaire et devenir une fille légère pour m'affranchir du poids du cœur et ses raisons. Ces amoureux se mêlent de plomb, tous ceux qui pèsent, tous ceux qui tendent ces kilogrammes de sentiments. Telle fille, telle mère, je suis restée une femme légère pour m'éviter le poids du cœur et ses mystères, les amours comme des sacs de pierre, tout ce qui pèse, tout ce qui nuit, jamais faire pitié, juste envie. Mais j'ai beau faire, je tombe d'amour. Les filles légères ont le cœur lourd. Le poids du cœur attrape toujours les filles légères et tout un jour ont ce sentiment d'échouer, de s'être légèrement planté. Le poids du cœur, oublie le don, cette légèreté, je t'en fais don. Tu sais, tu ne risques rien de plus que d'être légèrement déçu. et pour lui plaire, j'ai rejoué la fille légère. J'ai essayé, mais voilà, mon cœur pèse des tonnes. Cette légèreté m'abandonne et c'est un fardeau surprenant, ces kilogrammes de sentiments.
L'histoire de site, elle remonte à assez longtemps, d'un hameau médiéval qui va laisser la place à un château, un jardin à la française, et puis le marquis de Laborde qui arrive après avoir fait du commerce. Il est devenu banquier, il a fait fortune et il va racheter le domaine. Et donc là, on est en 1784. C'est un travail pharaonique, on va détourner la rivière, on va amener des essences exotiques, on va acclimater. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, aujourd'hui on dit l'art du cheminement. Cette promenade qui se fait au fil de l'eau, quasiment. Ce temps qu'on se donne à découvrir les choses, quand on prend le temps de la découverte. Et je pense qu'effectivement, c'est cette subtilité-là qu'on retrouvait à l'époque.
Laurent Boudreau dirige le domaine de Méréville, en Ile-de-France, dans l'Essonne, dont vous êtes la marraine. Catherine oui. Deneuve, il y a un château, il y a des hectares de jardins. Quelle est votre activité de marraine ?
Eh bien, dans le cas de Jean-Michel, c'est une chose vraiment très positive, parce que j'ai eu l'occasion à une visite là-bas de voir ce pont qui était absolument merveilleux. Avant, il y avait eu un pont, et c'était le pont aux boules d'or. Donc vraiment, quand on a dit ça, j'ai pensé à Jean-Michel, je lui ai demandé qu'il puisse le contacter pour voir si éventuellement... lui pourrait s'intéresser à cela, en faire quelque chose, si c'était possible. Et il a été extrêmement généreux, parce que non seulement il a dit oui, mais c'est lui qui l'a fait, qui l'a proposé et qui l'a offert. Donc c'est quand même un cadeau somptueux. Hein.
Racontez-nous ce pont.
Ah non, mais c'est une beauté, parce qu'il est, comme ça, arrondi, où il était dans cet endroit à Méréville, avec ses boules d'or. Mais c'est d'une beauté, c'est tellement poétique. C'est un endroit assez extraordinaire, quand même.
Jean-Michel Letoniel, racontez-nous la... L'élaboration de ce pont.
Déjà, quand on m'a contacté de la part de Catherine Deneuve, évidemment, j'ai dit oui avant même de... parce que je trouvais ça déjà un miracle. Mm-hmm. Et puis après, c'est vrai, quand j'ai vu les dessins d'Hubert Robert, de ce pont qui a été fait à l'époque, et puis ce jardin anglo-chinois qu'ils sont en train de restaurer avec ces arbres incroyables qu'ils vont planter, avec cette rivière qu'ils ont déplacée, bah, c'était évidemment très inspirant. Voilà, j'ai eu envie de créer cette passerelle entre deux rives qui soit suspendue et qui de loin pourrait ressembler à l'œuvre d'Hubert Robert. Et quand on se rapproche, ça devient une œuvre contemporaine.
C'est une grande beauté, vraiment.
Vous avez l'occasion d'aller là-bas ?
Oh bon, non, attendez, aller en Essonne, pour moi, c'est pas du tout la région où je vais. Quand j'étais, c'était pour ça. Mais sinon, non, j'ai pas le temps, vraiment. Franchement, je peux pas. Je peux pas, mais j'y pense. Je sais que ça existe, c'est dans ma tête. Et puis je peux... Oui, pour des occasions exceptionnelles, oui, j'y retournerai, sûrement. Oui.
Vous avez une maison en dehors de Paris ?
Oui.
Vous avez un petit peu l'occasion d'y aller ?
Ah, mais j'y vais très régulièrement.
Et bah, c'est là que vous jardinez ?
Oui, jardiner, je ne sais pas si c'est jardiner, franchement, d'abord parce que les week-ends, je trouve que c'est assez court. Moi, je ne suis pas une femme du matin, donc je me couche tard, je me lève tard. Donc bon, c'est très très décalé pour moi, donc ce n'est pas forcément du jardinage, mais c'est très lié en tous les cas, oui, au jardin. Mais...
Quelle fleur vous aimez ?
J'aime les roses comme beaucoup, évidemment, mais j'aime les pois de senteur, les pivoines et les iris.
On peut vous offrir ça et vous faire plaisir.
Ah, très plaisir, oui, ça. Ah oui, ça. Bon, les iris, malheureusement, ce que j'ai chez moi sont des iris merveilleux qui viennent d'un spécialiste. Mais c'est tellement fragile, c'est tellement... On peut le couper chez soi à la campagne, on peut pas les ramener, on n'en trouve pas vraiment à Paris. Mais les pivoines, oui, ça, on peut en trouver, c'est tellement... Oui, c'est un parfum, pas toutes, mais un parfum extraordinaire.
Vous leur parlez à vos fleurs ?
Bon, vous savez, ce qu'il y a quand même, c'est qu'on parle tout seul, surtout, par moment. Oui, ben oui, ça m'arrive.
Vous parlez toute seule ?
Ben, comme tout le monde, oui, oui. Quand on est tout seul, dans un jardin ou même dans sa voiture, ça arrive qu'on parle.
On parle aux arbres ?
Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça compte beaucoup, les arbres, pour moi, beaucoup.
Mais qu'est-ce que vous leur dites ?
On leur dit qu'ils nous inspirent, qu'ils sont là pour aussi faire le lien. Moi, j'ai cette anecdote d'Agnès Varda qui m'avait dit une chose incroyable. Elle m'avait dit « Tous les matins, je vais voir un arbre avant de faire quoi que ce soit. »
Ah oui.
Et je trouve ça formidable.
Bah, elle a de la chance de pouvoir faire ça.
Bah
parce
oui.
Qu'à Paris,
elle avait un petit jardin.
Oui,
donc
oui,
je pense
bien
qu'elle
sûr,
allait voir son arbre.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais les arbres, on les aime et on leur doit beaucoup aussi. Oui, on est un peu exaltés par le fait que c'est quand même eux qui nous sauvent beaucoup. Pas forcément ici où il y a tant de pollution, malheureusement, à Paris, mais dans la nature en général. Même, que, même tout ce qu'il y a, les paysans, tous les champs. C'est absolument merveilleux, absolument nécessaire. Moi, avant d'arriver chez moi, à la campagne, il y a un panneau qui a été mis par eux, il y a marqué « Pas de pays sans paysans ». Mais c'est vrai.
Mais vous les défendez souvent, les agriculteurs.
Oui.
Souvent, vous dites qu'il faut aimer tous les agriculteurs.
Bien sûr. Ah ben oui, oui.
C'est vrai qu'ils façonnent le paysage.
Ah oui.
Et là, en prenant le train entre Avignon et Paris, c'est vrai que j'ai vu le paysage avec ces champs de colza jaunes.
Ah oui, ça c'est magnifique. Moi aussi, je vois ça à la campagne. En plus, ça monte, ça descend un peu. Là, il y a un endroit où je passe qui est vraiment... C'est tellement beau, tellement beau. Puis maintenant, c'est le lin. Et le lin, c'est tellement joli parce que ça bouge beaucoup. Et puis, les fleurs sont très petites, un bleu particulier, et la tige est verte. Donc, on ne voit jamais du bleu, jamais du vert. Tout est tout le temps mélangé. C'est d'une beauté en fleurs. Le lin, c'est magnifique. Ah oui.
Mais ça, je trouve que c'est intéressant de se dire que les paysans façonnent le paysage et qu'on n'est pas face à un paysage naturel, en fin de compte, que tout a été recréé. Et c'est valable dans les jardins anciens. C'est valable. Il y a cette idée de la recréation de la nature, elle nous entoure. Et les paysans font que la France est belle.
Il y a un mot que vous employez, un verbe que vous employez beaucoup, Jean-Michel de Tonnielle, c'est réenchanter. Il faut réenchanter la vie.
Il le fait bien.
Vous diriez qu'il le fait bien,
Catherine? Ah oui, ça, il le fait bien. Il le fait et il le fait bien, oui, beaucoup. Mmh. Ah oui. Mais oui, quand on regarde ce qu'il a fait, même ce qu'il a écrit, c'est tellement... Enfin, moi, quand je le regarde, parce que moi, je l'ai emmené à la campagne, c'est herbier, parce que vraiment, l'ouvrir, le regarder de temps en temps...
Oui, vous avez écrit sur un...
Ah oui, mais, oui, mais
c'est
vraiment merveilleux.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Racontez-le nous un petit peu.
Parce qu'il y a, évidemment, il y a toutes les fleurs qu'il a choisies. Mais en face, il y a sur la même, enfin la page en face, il y a tout un tableau extraordinaire qui est lié, oui, c'est ça, à cette fleur. Mais c'est absolument ravissant. C'est quelque chose qui vous, voilà, pour quelqu'un qui aime. La nature et surtout les jardins, oui, c'est absolument ravissant.
Parce que je repense au petit Jean-Michel que je n'ai pas connu, mais je vous ai entendu en parler. Vous faisiez des herbiers avec votre grand-mère.
Moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à cette symbolique des fleurs dans la peinture ancienne, adolescent. J'étais un petit garçon un peu sage, un peu...
Et rêveur.
Et rêveur. Et donc, dès que je lisais un livre ou un article, et dès qu'il y avait une anecdote... qui repérait un tableau par rapport à une fleur ou par rapport à un arbre, je notais cette anecdote. Et puis, peut-être 30 ans après, Actes Sud m'a proposé d'en faire un livre que j'ai illustré à travers des photographies que j'ai prises au musée du Louvre et qui viennent illustrer vraiment, je sais pas, le coquelicot, toutes ces fleurs des simples.
Ah oui, mais c'est vraiment, c'est incroyable.
Ça s'intitule « L'herbier merveilleux, note sur le sens caché des fleurs dans la peinture ».
Et c'est vrai parce que des fois sur des tableaux très anciens, c'est très petit, c'est dans le bas comme ça du dessin, de cette peinture, et on voit des choses très petites, très délicates. Oui, ça c'est...
C'est vrai que ça rappelle l'enfance, l'herbier. Écoutez ce reportage de 1970 avec des enfants qui veulent apprendre à faire un herbier et qui demandent conseil à un spécialiste au Jardin des Plantes à Paris.
Bonjour monsieur, nous
Bonjour.
Avons cueilli ces plantes et nous aimerions bien savoir comment faire un herbier.
Ben c'est très simple. Je vais prendre ce très bel échantillon d'arbre avec un sécateur. Nous allons couper au format. Voilà, nous allons en prendre une branche. Nous allons couper un petit morceau de cette tige. Nous allons disposer les feuilles le mieux possible. Aussi, il faudra beaucoup de papier, des coussins, changer plusieurs fois les journaux, une fois en 24 heures à peu près. Et au bout de 3-4 jours, la plante sera sèche.
Voilà, c'est un petit peu ce que vivait Jean-Michel Lautoniel quand il était enfant.
C'est surtout ce que je vis là au Muséum Réquien, qui est le musée d'histoire naturelle à Avignon, où il y a une des plus grandes collections d'herbiers en France. Et c'est formidable de voir le côté évidemment beau de ces planches qui datent du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et comment aussi elles retraduisent comment les plantes ont évolué, sont déplacées. Enfin, c'est vraiment... c'est non seulement beau, mais c'est aussi scientifique. Ça nous éclaire sur comme la migration des plantes. Et donc, je vais exposer au milieu de ces herbiers au Muséum Requien.
Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre d'assez impressionnant? On a envie tout de suite d'imaginer, de rêver avec vous.
Au contraire, très cabinet de curiosité autour de mes inspirations, justement ce rapport aux fleurs, à la nature, avec plein de fleurs qui seront évoquées là. Et après, les choses plus spectaculaires, c'est par exemple, je vais montrer 10 ans de peinture que j'ai jamais montré en France, qui vont être montrées sur un seul mur du Palais des Papes. Il y aura 60 peintures sur fond d'or blanc et qui, chacune, sera inspirée par les fleurs.
Vous venez de la peinture, hein?
Je viens du dessin plutôt.
Oui, du dessin.
Que je dessine, mais je tiens des carnets de notes en dessin, oui.
Oui, on connaît surtout votre travail sur le verre, peut-être moins ce que vous avez fait avec la cire ou le soufre, qui étaient vos débuts de sculpteur, Jean-Michel Autoniel.
C'est-à-dire que j'ai fait des choses en soufre, et puis pendant 10 ans, je faisais des choses en soufre. Et tout le monde me disait « Ah, mais tu es l'artiste du soufre, tu feras jamais rien d'autre ». Puis un jour, je suis tombé dans le verre, et puis j'ai aimé ça, et on verra dans 10 ans ou 15 ans.
Ah oui, c'est devenu extraordinaire. En fait.
Catherine Deneuve, oui.
Oui, parce qu'il faisait beaucoup au départ, c'était en France, c'était dans le sud de la France, et puis en Italie, après. Maintenant, en Inde, il a fait des choses. C'était un escalier extraordinaire. Moi, j'ai été faire une photo là-bas, parce que c'était tellement extraordinaire, qui était au Petit Palais. C'est absolument incroyable. C'est un escalier en...
C'est briques bleues, oui.
C'est briques bleues, mais bleues, c'est... On reste sans voix, c'est étonnant, vraiment.
Vous pourriez commander une œuvre pour votre jardin?
Ah oui, ça, c'est vrai que...
Qu'est-ce que vous aimeriez?
J'aimerais avoir une grande croix. Quand j'étais en Avignon, là, j'ai pu voir la très grande croix que Jean-Michel a fait il y a longtemps.
Au Château Lacoste,
oui. Au Château Lacoste, oui, une grande croix. Puis j'en avais vu une aussi pour Cartier, il y en avait une de...
Quelle mémoire, oui.
Ah oui,
c'est là où on s'est rencontrés il y a 20 ans.
Ah oui,
il
y avait une très grande croix qui était... Qui était magnifique aussi.
Pourquoi une croix? Vous êtes croyante?
Ou c'est la forme qui me plaît.
C'est la forme qui vous plaît?
Non, mais c'est une très grande croix. Ce sont des très grandes croix et ça représente quelque chose qui est. Je ne sais pas, je pense que c'est.
Tout du sacré, oui, qui nous dépasse.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas vraiment pour moi, c'est pas comme si c'était une chose catholique ou tout ça. Mmh. Non.
C'est sacré.
Je ne pratique pas. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et j'aurais bien voulu savoir comment allait ce qu'il avait créé à Versailles, qui était très étonnant, vous savez, à Versailles.
Bien sûr.
Oui, je voulais savoir comment ça a évolué. C'était tellement... J'avais été à l'inauguration quand il l'avait fait. Et
vous allez partout où se produit Jean-Michel Autoniel?
Ah ben non, ça je ne peux pas, malheureusement. J'aimerais bien, mais...
Mais c'est vrai qu'on s'est croisé de nombreuses fois, et Versailles, c'était vraiment un moment extraordinaire.
Ah,
Qu'est-ce que vous avez fait alors là-bas, racontez.
À Versailles, j'ai travaillé donc avec un très grand paysagiste qui s'appelle Louis Bénèche, qui m'a invité à concourir avec lui pour transformer un des bosquets, qui est le bosquet du Théâtre d'Eau, en un bosquet contemporain. Et donc, ensemble, lui a créé le jardin et moi les fontaines, inspirées des pas de danse de Louis XIV, en perles d'or posées sur l'eau, qui sont là maintenant depuis une dizaine d'années. Et le jardin, pour répondre à votre question, Catherine, est devenu formidable. C'est-à-dire que Louis est un génie.
Ça n'a pas poussé trop haut quand même, parce que moi j'avais peur que ça cache un peu les fontaines.
Non, justement, c'est ça qui est étonnant. C'est comment un paysagiste peut se projeter dans le temps et nous offrir
vrai,
quelque chose 10 ans plus tard. Il m'avait prévenu, il m'avait dit « tu vas jouer la première partie et moi je jouerai la seconde ». Et c'est le cas en ce moment, lui qui resplendit à travers...
Ah, c'est magnifique.
Vous êtes extatique devant le travail de Jean-Michel Autoniel. Je vous vois depuis tout à l'heure, vous disiez « c'est magnifique ».
Mais vous savez, parce qu'on parle de quelque chose très particulier, c'est une chose... Vraiment, c'est très particulier de parler de ça aujourd'hui. Et notre vie n'est pas du tout ça en ce moment et depuis assez longtemps. Donc, pour moi, c'est un souffle d'air. C'est quelque chose qui me permet de m'échapper avec tout ça. De
l'actualité.
Oui, voilà. Mais c'est quelque chose qui apporte un très grand réconfort, surtout en ce moment, je trouve. Oui.
Mais vous retrouvez du Jacques Demy chez Jean-Michel Autoniel dans sa façon d'enchanter et de réenchanter la vie. Demy, il a eu besoin d'exprimer ça au cinéma.
Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Ce qu'il fait, lui, c'est quelque chose qu'on peut voir quand on veut, où on veut. Vous voyez, c'est pas comme une chose qui est visuelle comme ça, qui est sur un... la musique aussi, même de Jacques Demy avec Le Grand, c'est vrai que ça peut apporter ça, mais c'est tout à fait...
Autre chose.
C'est tout à fait autre chose, oui. Mmh. C'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose qui ne parle pas, vous voyez, que simplement vous l'interprétez à votre façon. Enfin, vous voyez quelque chose que tout le monde ne voit pas ça comme ça, pas de la même façon. Donc, moi, je trouve ça d'un très grand réconfort. Mais c'est quelque chose de très positif et qui vous met dans une certaine joie.
Ah.
Ouais. Oui.
Est-on artiste pour apporter de la joie ou pour en trouver soi-même, Jean-Michel Houtonienne?
Alors,
je vous laisse 2 heures.
Oui, cette idée de ramener de la joie est très importante dans mon travail. Et comme le dit Catherine Deneuve, c'est de plus en plus vital. C'est-à-dire que je pense que... Et l'exposition du Petit Palais dont on parlait, justement, où c'était vraiment un jardin clos, ce jardin enfermé dans ce... C'était aussi montrer à quel point un jardin est un endroit où on se ressource, où on va se poser, où on va se reconstruire pour après affronter le monde. Et j'essaie de donner ça aussi à travers mes œuvres, que les œuvres soient des œuvres accueillantes, qui nous fassent un peu rêver, partir ailleurs, pas pour s'échapper dans un monde, je dirais, qui serait un monde irréel, mais au contraire, pour chercher le réel merveilleux, ce qui est de merveilleux dans le réel. C'est ce que j'essaye de faire.
Il y a des œuvres qu'il a faites il y a longtemps, mais qui sont absolument merveilleuses, peut-être presque les premières que j'avais vues, se trouvent maintenant à Pompidou.
Oui.
C'est tellement inouï comme de savoir qu'il a cette chose qui reste maintenant, qui fait partie vraiment du musée, que ce sera toujours là pour tant de gens et tant d'enfants qui viendront voir ça, parce que c'est inouï vraiment ça.
Qu'est-ce qu'on peut voir au Centre Pompidou de vous ?
Au Centre Pompidou, c'est un projet assez exceptionnel j'ai fait parce que je me suis fait vraiment plaisir déjà. C'était dialoguer avec Pierre Loti, enfant.
Donc l'écrivain, académicien.
Voilà, un écrivain...
Mort en 1923.
Et donc arriver à dialoguer avec quelqu'un grâce à des petites marionnettes qu'il avait fait enfant, que j'ai découvertes par hasard dans les réserves du musée. Il est parti à l'armée, en partant à l'armée à 14 ans, il avait mis toutes ses marionnettes dans une boîte en écrivant dessus « Peut-être qu'un jour, quelqu'un remettra en scène mon petit théâtre », qui était le petit théâtre de Peau d'Âne. Donc, quand...
On s'est noué comme ça.
Ouais, oui, il y a des nœuds qui sont nés de cette rencontre.
On va parler de ça dans un instant. Vous avez tout à fait raison d'en parler maintenant, parce qu'il y a Catherine Deneuve aussi dans ce livre, en peau d'âne, justement.
Avec
ses robes, et puis il y a vos œuvres, et puis il y a votre tête aussi, vous êtes photographe. Il est très très beau ce livre, parce que l'air de rien, il y a beau avoir une iconographie importante, il parle de vous, et de votre traversée, et de vos désirs d'artiste. Mais on va écouter d'abord un Américain, un spécialiste de la soul, Curtis Harding, qui chante « There She Goes ».
Thank you.
Curtis Harding sur France Inter dans le grand atelier de Jean-Michel Autoniel avec Catherine Deneuve, There She Goes.
Le grand atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Ben oui, je le tiens entre les mains, ça coûte une 20aine d'euros. C'est paru aux éditions courtes et longues. Ça aussi, vous le regardez, ce petit bouquin, Mon petit théâtre de Podane, par Marie Desplechin, oui, et Jean-Michel Autoniel, Catherine, oui, Deneuve, oui, chez vous?
Oui, oui, bien sûr.
En rentrant du jardin?
À quelle heure et dans quel état, franchement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a sûrement un moment, oui, bien sûr.
Comment on s'habille quand on fait son jardin? Est-ce qu'on a des gants verts?
Bon, comment on s'habille? On s'habille comme on s'habille.
Est-ce qu'on
après,
a un jean?
Ça dépend, parce que le jean, c'est pas fait pour se baisser, se mettre à genoux. C'est assez dur, c'était fait au départ pour les gens qui travaillent vraiment debout et solide et tout ça. Donc, mais enfin, je mets des choses, oui, souples. Et puis j'ai souvent, oui, un grand tablier pour mettre des choses dedans. Mais j'ai toujours des choses dans un panier, des machins, des trucs pour... Voilà, des clous, des machins, plein de petites choses qu'on doit toujours quand on est dans un jardin. Oui.
Et personne dans la famille n'a le droit de toucher au jardin à part vous, les enfants, les petits-enfants? Il n'y a que vous qui avez le droit de tailler.
Tout,
de...
C'est pas du tout un jardin comme ça.
Non, je vous imaginais autoritaire dans votre jardin.
Moi, j'ai refait une maison depuis quelques années seulement. Donc, j'avais fait un endroit qui était merveilleux avec Jacques Wirth. C'était un très grand...
Bien sûr.
Un très grand, oui.
Un grand paysagiste belge.
Un grand paysagiste que j'ai bien connu et beaucoup aimé.
Je trouve toujours un jardin qui n'est pas bien en hiver, eh bien, c'est un jardin qui n'est pas bien en été. Parce que l'hiver est très important... N'oublions pas qu'il y a 6 mois que la nature est en repos, et alors je trouve un jardin doit être très bien lisible.
Ça vous ramène aux années 80, ça, Catherine Deneuve?
Oh, mais j'adore entendre sa voix, parce qu'il est tellement à la fois délicat, et en plus c'est quelqu'un qui a vraiment commencé comme jardinier, hein. Il a vraiment des débuts de quelqu'un qui a fait physiquement ce métier, c'est comme ça qu'il a fait ça, qu'il a grandi et qu'il a fait ces choses... absolument formidable, parce qu'il a vraiment une vision, pas du jardin seulement,
de l'architecture même.
Oui, c'est ça, parce qu'il faisait beaucoup de choses avec des buts et qu'il taillait d'une façon très particulière. C'est avec lui que j'ai découvert ça aussi. Et puis il est venu chez moi, oui, pour faire ce jardin, et c'était beaucoup de haies, tout ça, oui, c'est un truc, c'est tellement... démesuré de faire un très grand jardin, c'est vrai que c'est...
Mon petit théâtre de Podane, il y a cette définition des jardins par Jean-Michel Autoniel, je vais vous la lire. Jardin est le nom du paradis qui se dit Pardès en hébreu. Le paradis de la Bible est un jardin merveilleux, planté autour d'une fontaine d'où partent 4 fleuves. Avec son jumeau, l'enfer, le paradis est le premier et le plus beau des mondes parallèles. Je me suis intéressé au livre et au tableau qu'il a inspiré. Pour en recréer l'idée, j'ai créé des œuvres destinées à être installées dans des jardins. On les découvre en se promenant, accrochées dans les arbres, déposées dans les bassins, posées dans des clairières. C'est toute la rêverie dont vous parliez, Catherine Deneuve.
Oui, mais oui, pour lui aussi, avant, bien sûr. Oui, oui, c'est oui, un peu le rêve, c'est... quand même, la nature, le jardin. Les...
Moi, j'aime beaucoup les jardins clos, et c'est vrai que les jardins... Par exemple, les jardins de l'Alhambra sont des jardins généralifs de l'Alhambra, et un jardin extraordinaire, justement, on a les sons de l'eau,
en Espagne,
la fraîcheur,
oui,
en Espagne, Grenade. La Grenade, c'est un endroit...
Très arabe.
Oui, comme ça, qui est très fort. Et moi, j'aime beaucoup cette idée que le jardin est une bulle qui nous protège et qui nous permet de se reconstruire.
Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait un endroit qui soit fermé dans une propriété assez grande, qu'il y ait un endroit fermé. Mais sinon, j'aime bien voir des très grands arbres, oui.
Ouais. Et vous des perspectives, allez... des choses. Ouais,
et vous allez leur parler. Est-ce que vous savez que quelquefois, les roses nous parlent?
Non.
Vous ne savez pas ça, Catherine Deneuve?
Ah non, non.
Moi, je l'ai appris en voyant un film qui s'appelle Podane.
Tu t'ennuies, cher Seigneur?
Moi? Je ne m'ennuie jamais, la rose. Comment s'ennuyer dans un monde où il y a tant à faire, à découvrir, à comprendre.
Tu chantais l'amour, le cherches-tu?
Évidemment, je le cherche, comme tout le monde.
Alors continue ton chemin, c'est une question de confiance.
Merci, la rose.
Ah, ce film a compté pour tellement de spectateurs, de tous les âges, Catherine.
Ah mais oui, j'ai des enfants encore, que je rencontre des mamans comme ça, des enfants qui viennent parce qu'ils sont absolument émerveillés. Alors quand ils me voient, évidemment, je ne suis pas très Podane aujourd'hui, avec la couronne, les robes, couleur de lune, couleur de... Mais oui, les enfants sont absolument subjugués encore aujourd'hui par ce film qui est vraiment merveilleux.
Il paraît que des enfants devenus adultes vous disaient « on a essayé la recette du cake d'amour ». Et c'est pas bon.
Non, non, ça, je sais que ça avait été essayé. Et je crois que c'était même Hermé qui avait pu habilement pour un anniversaire. Je sais plus, Agnès Varda qui avait organisé ça. Et donc ouais, on avait...
Le pâtissier chocolatier.
Mais il avait quand même. Oui, enfin, il avait surtout arrangé les choses, parce que la base de. C'était bien pour les mots, pour le choix.
Oui, pour la chanson.
Oui, pour la chanson.
Oui, c'est ça.
Mais c'était pas le meilleur gâteau.
Ne faites pas de gâteau si vous nous écoutez. La poésie de Jacques Demy, quand vous voyez ce film, elle explose en vous. Ça crée quelque chose, Podane, pour Jean-Michel Autoniel.
Ah oui, oui, pour moi, c'est une révélation. C'est le film que j'ai vu enfant et qui m'a bouleversé, qui m'a montré une voie en me disant, voilà, venant de Saint-Étienne, une ville grise, étant à l'école avec les enfants de mineurs, voir Podane, c'était se dire, bah, il y a un ailleurs possible.
Ah ouais.
C'est sûr que ça parle à beaucoup de gens, oui.
Vous réenchantez la vie des gens, Catherine Deneuve, avec des films comme
ça ?
Bah si, bien sûr.
Moi non, je ne suis pas assez créative pour dire
ça. Mais vous participez à la création.
Non, je suis très contente d'avoir participé à des choses comme ça, mais je n'estime pas être... Non.
Demy reste quand même quelqu'un que vous citez très souvent, avec beaucoup d'amitié et d'amour, je trouve.
Oui, d'amitié, oui, bien sûr, oui, oui, c'était quelqu'un de très important dans ma vie, oui, oui, vraiment.
Vous dites, Jean-Michel Autoniel, dans ce livre, Mon petit théâtre de Podane, que les artistes ne sont pas restés, comme on le dit souvent, de grands enfants, que c'est faux de dire ça, mais qu'enfants, ils étaient des petits adultes.
Alors ça, j'ai réussi à je dirais, formuler ça grâce à Marie Desplechin, avec qui on a fait ce livre, que j'aime beaucoup, et qui, quand on m'a proposé de faire un livre sur cette histoire avec Pierre Loti, je me suis dit, je ne vais pas savoir comment m'en sortir de cette histoire d'enfance, parce que ce n'est pas mon truc, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas quelqu'un qui, paradoxalement, vraiment tourné vers l'enfance. Et donc, je lui ai dit, voilà, moi j'ai toujours l'impression que j'étais déjà adulte quand j'étais enfant, sauf que je n'avais pas les mains assez puissantes, que je n'étais pas assez grand, qu'on n'écoutait pas ma voix, mais j'ai l'impression que je suis le même. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adulte dans l'enfant et pas l'enfant dans l'adulte. Voilà. Et donc, elle m'a aidé à raconter cette histoire en m'appuyant sur cette découverte de Pierre Loti qui, lui, enfant, a posé à travers son petit théâtre toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a fait des petits personnages qui sont des derviches tourneurs quand il avait 7 ans et il va devenir ambassadeur de France en Turquie. Il va faire des petites africaines et il va épouser une africaine.
Il faudrait écrire un film sur Pierre Loti.
Il faut dire ça à Jean-Michel, pas après.
Je ne suis pas cinéaste.
En même temps, je vous regarde et je vous écoute, Catherine Deneuve. Vous sortez énormément, vous êtes curieuse de beaucoup de choses. Moi, je vous vois au cinéma, on voit Catherine Deneuve dans les salles.
Oui, moi, je suis curieuse de plusieurs choses, mais enfin, ce n'est pas toute la vie, malheureusement, mais c'est vrai que je suis assez curieuse.
Oui, vous allez voir tout ce que fait Autoniel et d'autres, sans doute. Vous le faites pour vous-même ? Est-ce que vous le faites pour vos rôles ? Parce que des choses peuvent venir aussi quand vous interprétez. Est-ce que c'est lié à la fois le fait d'aller le plus souvent possible voir des expositions du cinéma, du théâtre ? Vous êtes aussi dans
les
salles.
Non, je ne vais pas voir beaucoup d'expos de cinéma. Je vois beaucoup de films.
Oui.
Mais... Non, c'est pas vraiment...
Est-ce que ça nourrit votre travail de comédienne ?
Ah non, non, moi je nourris pas mon travail, qui n'est pas un travail, qui est une activité. Non mais, oui, à un moment bien sûr que c'est un travail, mais quand on tourne, ça peut être un travail, mais sinon c'est pas un travail. Et sinon, je nourris rien du tout, je nourris que mon corps et ma tête, oui.
Vous, votre façon de travailler, c'est de discuter, de déjeuner, de dîner avec le metteur en scène, par exemple ?
Non, 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 non.
Non ?
Non, mais vous savez, on lit le scénario avant de commencer à tourner, on fait plusieurs lectures. Ça dépend aussi des metteurs en scène, mais sinon, non, bah alors pendant le tournage, c'est trop tard. On n'a plus le temps du tout maintenant. C'était un peu plus avant, mais quand même, on n'a plus le temps.
Parce qu'on tourne vite ?
C'est pas qu'on tourne vite, on tourne beaucoup. Il faut quand même arriver à tourner moins longtemps. Maintenant, on fait des films en 8 semaines, 9 semaines. Avant, c'était 12. Enfin, c'est devenu quand même très difficile, très lourd. Donc, non, moi, je discute pas pendant les tournages. Oui, ça peut arriver en répétition quand on travaille, mais sinon, c'est plutôt quand on fait la lecture.
Est-ce que vous êtes une artiste, vous, comédienne ?
Non, je me considère comme une femme avec quelque chose d'artistique dans ma vie, oui. Mais pas une artiste. Artiste, c'est quand même vraiment créer d'une façon totale, je veux dire, du début jusqu'à la fin, quelque chose. Son cas, à lui, Jean-Michel, pas le mien, non.
On va se rendre à Annecy pour évoquer le Festival international du film d'animation, juste après avoir écouté Camille Yembe, qui chante Plastique.
cigarette. J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire. Pour toi, c'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique. Pour éviter de tout casser encore. Une fois, j'ai enfilé une peau en plastique. Pour pouvoir la jeter, jeter au sol. Une fois, j'ai enfilé une peau en plastique. Tu reconnais la silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui. Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques. J'ai rêve de vivre d'amour et de quête moi. Ah, je vis la vie d'une autre, c'est dommage. D'amour et de quête moi. Ah, je vis la vie d'une autre fille, c'est dommage. Ah, j'ai enfilé une peau en plastique.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Du 8 au 14 juin, c'est le Festival international du film d'animation à Annecy. Je salue Marcel Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur artistique du festival depuis 2013. C'est un festival qui invite tous les spectateurs à voir des films, mais c'est aussi, comme Cannes, l'occasion d'un marché international du film.
Absolument, c'est un grand marché, c'est le rendez-vous des professionnels, mais il y a une dimension grand public qui est importante parce qu'il est capital pour nous d'accueillir les Annecyens et les gens de partout et de leur permettre de goûter au meilleur du cinéma d'animation, d'organiser des rencontres entre les créateurs les plus célèbres du moment et le grand public aussi.
Et puis, s'il fallait encore comparer votre festival à celui de Cannes, on peut dire qu'il y a aussi une compétition et des sections.
Absolument. Nous avons ici les compétitions de longs métrages, de courts métrages, mais aussi de programmes de télévision, de films de commande, ce qui nous amène du côté des vidéoclips, par exemple. Cette année, on a un hommage aux as du vidéoclip animé, dont Michel Gondry, qui sera l'un des invités d'honneur du festival.
On dit toujours que le cinéma regarde le monde, et c'est vrai que quand on a la chance d'être festivalier à Cannes, on se dit, j'ai l'impression de savoir ce qui se passe en Israël, j'ai l'impression de mieux connaître la réalité en Russie, j'ai l'impression de voir des militaires ukrainiens, des gens en train de se battre. Est-ce que le film d'animation a cette même faculté de raconter le réel ?
Oui, absolument. Et on le voit cette année, par exemple, avec un film coréen qui s'appelle The Square, qui se retrouve en compétition et qui raconte la vie en Corée du Nord. Bon, ce qui demeure toujours un peu mystérieux ici. On le voit avec Allah n'est pas obligé, qui nous parle d'enfants soldats en Afrique. Donc, tous ces grands thèmes, ils sont abordés en animation et parfois, je dirais, avec peut-être plus de liberté encore qu'en prise de vue réelle.
Ah oui, plus de liberté.
Oui, parce que l'animation peut permettre, dans des contextes où il y a de la répression, de la censure, de montrer des choses qu'il n'est pas possible de filmer en prise de vue réelle.
Il y a Sylvain Chaumet, bien connu en France, qui est présent au Festival international du film d'animation d'Annecy, puisqu'il présente Marcel et Monsieur Pagnol.
Oui, Sylvain Chaumet, qui est une grande figure de l'animation, un compagnon de route d'Annecy, puisqu'il a déjà ouvert le festival avec l'illusionniste il y a de cela une quinzaine d'années, quoi. Et il est de retour en compétition officielle cette année avec ce Marcel et Monsieur Pagnol. Très attendu, c'est un film dans lequel on retrouve le style graphique, le dessin, la patte très singulière de Sylvain Chaumet. Et pour la première fois, le dialogue, la langue, donc, cette langue du Sud, donc la langue de Pagnol, est au cœur de son cinéma d'animation, puisqu'on se souviendra que Les Triplettes de Belleville et L'Illusionniste étaient des films sans dialogue.
Merci Marcel Jean.
Merci à vous.
C'est le Festival international du film d'animation à Annecy qui commence le 8 juin, qui se termine le 14 juin. On va poursuivre la conversation un peu sur le cinéma, mais vous l'avez entendu, sur les jardins, sur la nature et sur les œuvres en verre de Jean-Michel Autoniel.
Oui, oui. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Mon ami habitait cette maison dans son enfance et on se demandait si ça vous embêtait pas qu'on regarde 5 minutes.
Oh, c'est incroyable. Vous habitiez ici quand ? Dans les années 60.
Mais pourquoi vous avez coupé le chêne ?
Mais pour récupérer un peu de soleil.
Mais il était magnifique, c'était un arbre trois fois centenaire.
Mathilde, faut pas qu'on tarde parce que...
Mais enfin, c'est ridicule. On coupe pas un chêne, on l'éclaircit.
Je suis désolée.
Oh. Qu'est-ce qu'il y a, madame ?
Bah, ils ont coupé le vieux chêne.
Mais qui ?
Tes parents.
Madame.
Mais maman, pourquoi vous avez coupé l'arbre ?
Mathilde, on va peut-être y aller parce qu'il y a un RER à 27.
Ah, quel beau film, quelle comédie, comment on dit, douce, amère.
Oui, oui, oui.
Dans la cour de Pierre Salvadori, c'est un film magnifique avec Gustave Kerben.
J'ai aimé beaucoup, beaucoup ce film tourné avec lui, avec ses acteurs qui étaient formidables. Non, vraiment, c'était formidable dans la cour, et j'étais vraiment dans la cour, oui.
Oui, c'est ça, et puis lui, c'est un musicien qui ne réussit pas, donc il devient gardien d'immeuble, et dans cet immeuble, il y a Catherine Deneuve, qui joue un personnage extrêmement angoissé, parce que son mur se fissure, elle pense que tout l'immeuble...
Beaucoup de gens ont cette chose-là devant une...
Mais elle a une angoisse depuis, je pense, sa naissance.
Ah oui, oui.
Et on trouvait que cet extrait de « Ils ont coupé le chêne » était absolument idéal pour cette émission.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, je trouve qu'il y a des arbres qu'il ne faudrait pas couper, mais... Oh, c'est vrai, il y a toujours ce drame quand on fait des autoroutes. Maintenant, ça devient vraiment quelque chose de discutable. Je peux comprendre, évidemment, des impératifs, mais en même temps, cette nature, il y en a certaines qui ne se referont pas vraiment comme ça, autour de ça, de ce qu'on a fait. Donc, il faut être très, très vigilant sur les choix d'une route, d'un chemin.
Ouais. Oui, ça me rappelle Isabelle Autissier la semaine dernière, navigatrice et défenseuse de la nature, qui disait « Notre grande chance, c'est que la nature finit par repousser, donc il faut avoir de l'espoir. » Jean-Michel Autoniel.
Oui, enfin, il y a des choses coupées qui restent coupées, mais c'est vrai que planter, c'est quelque chose de formidable, de se dire qu'on se projette comme ça dans le futur.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, j'ai planté une rose que m'avait fait découvrir, c'est la rose Mermaid, que j'ai plantée dans mon jardin.
Ah, mais moi, c'est une des premières que j'ai mises. Je l'ai offert d'ailleurs à des amis, parce que c'est un rosier extraordinaire, mais d'une très grande violence.
Hein. Ouais, à quoi ça ressemble ?
Sur des surfaces immenses, immenses, avec des épines très dures. Mais c'est ravissant, parce que les fleurs sont d'un jaune assez particulier. Elle est à fleurs simples, ce que j'aime beaucoup sur certaines roses. Avec un feuillage brillant, mais très important. Ça peut couvrir 10 mètres. Enfin, c'est un truc incroyable. Moi, j'en avais offert à quelqu'un. Ils ont dû y renoncer parce que c'était plus possible de l'impact que ça avait par rapport à la surface.
Oui, puis la sirène, c'est un peu vous.
Oui, non, mais vous l'avez fait dans un
petit jardin que j'ai maintenant à 7. Voilà, j'ai un petit jardin au bord de la mer.
Il faudra lui laisser beaucoup, beaucoup de place.
Oui, je lui ai donné beaucoup de place en pensant à vous.
Ah, c'est tellement beau. J'adore Mermaid. Ah oui, je l'ai replanté aussi dans ma nouvelle maison, bien sûr. Oui, je l'ai refait deux fois, là, oui.
J'ai une idée pour vous, Catherine Deneuve.
Voyons voir.
vous pourriez devenir chroniqueuse jardin sur France Inter.
Bon, je ne suis pas chroniqueuse, bon.
Avec Alain Baraton, vous feriez un duo avec Baraton.
Oui, c'est bien ce qu'il écrit.
Vous l'écoutez le week-end? Vous l'écoutez le week-end?
Ah non, le week-end, je n'écoute pas trop la radio le matin des fois, mais pas... Non, mais je connais, oui, bien sûr. Puis j'ai lu un livre de lui, oui, bien sûr.
Bon, bah, j'ai échoué, je n'ai pas réussi à faire de vous une nouvelle alliée de France Inter, une nouvelle collaboratrice. On voulait vous remercier infiniment, avec Jean-Michel Letoniel, d'être venu si généreusement dire votre admiration et puis parler de vos plantes, de vos fleurs, de vos roses qui vous parlent. Et des arbres que vous en serrez pour les remercier d'exister. Et vous allez lire quelque chose, je vous l'ai demandé. Merci beaucoup Jean-Michel Letoniel.
Merci à vous, merci Catherine d'être venue.
Longue vie à vos œuvres à Avignon, c'est jusqu'en janvier prochain, ça commence le 28 juin.
Oui, 28 juin, il y a
jusqu'en
10 musées.
Janvier, 250 heures.
Les musées sont gratuits à Avignon, c'est important de le savoir.
Il y aura même à un moment...
Ah oui, c'est important.
Un danseur étoile qui va danser autour d'une œuvre de Jean-Michel Letoniel dans le Palais des Papes avec une chorégraphie de Caroline Carlson.
Oui, c'est une chose que je fais le 1er et le 2 août avec Caroline et Hugo autour de mes œuvres. Et c'est la première fois qu'on donne à un artiste la cour d'honneur pour y mettre des œuvres pendant 2 mois.
Et il m'a dit qu'il était ravi de faire ce voyage avec vous. Et vous, vous aimez faire des voyages avec des artistes en général. C'est le mot que vous utilisez, Jean-Michel Letoniel.
Oui, j'aime bien les rencontres. Là, je suis très honoré que Catherine Deneuve soit là parce que c'est une grande artiste pour moi et pour le monde. Et d'arriver à dialoguer avec d'autres artistes, c'est toujours très enrichissant dans les émotions, dans l'envie de construire.
On écoute par Catherine Deneuve, Jean-Michel Letoniel, un extrait de votre livre « Mon petit théâtre de Podane ».
Mon cauchemar est de me retrouver enfermée. Il me semble parfois que le monde ressemble à une prison. Les gens sont coincés sur la terre, coincés dans le temps. Pas moyen d'en sortir. Sauf pour ceux qui ont découvert un passage secret. L'art est un passage secret. Il permet de traverser l'univers en douce, de passer dans des mondes parallèles. On y rencontre des créatures monstrueuses, aussi bien que des créatures merveilleuses. Ce sont des mondes risqués, libres et aventureux. Je crois que les artistes développent la capacité de voir des choses que les autres gens ne voient pas. Elles sont là, mais personne n'y a encore fait attention. Tout leur travail est de montrer qu'elles existent, de convaincre de leur réalité, de leur nécessité et de leur beauté. Je rappelle aux gens des choses qu'ils ont déjà vues dans leurs rêves. Mes objets prouvent l'existence réelle de choses secrètes et non vues. Je fabrique des pièges à rêves.
Lucie Lemarchand a réalisé cette émission préparée avec Virginie Rosic, Louise Tempero, Betty Algray, Valentine Chedebois à la programmation musicale et aujourd'hui à la technique, Philippe Duclos.